Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Ardiwa et c'est l'heure de l'interview avec au studio Bénédicte de Rugy. Bonjour.
Bonjour.
Bénédicte, vous êtes présidente de l'accueil de refuge de Tour de Borne.
Oui, c'est ça, l'association qui gère l'accueil et qui est secondée par le groupement foncier agricole qui s'occupe de toute la partie agricole, donc du pâturage.
On situera un petit peu plus en parlant un peu. Et Michel Léon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président de la section d'Iwa Crétois Val de Drôme de la Ligue des droits de l'homme.
Tout à fait. Une section qui compte une trentaine d'adhérents et qui existe depuis un peu plus d'un an maintenant.
Donc cette section organise les 5 et 6 juillet prochains les rencontres du refuge de la Tour de Borne. Ça se passera donc en altitude, après un dénivelé de 300 mètres environ, un parcours agréable de 3 quarts d'heure sous l'ombre des arbres quand même.
Oui, c'est facile d'accès, pour même si on n'a pas l'habitude de marcher, c'est pas compliqué. Peut-être juste préciser, parce que nous avons oublié de le faire sur notre programme, les personnes qui sont en difficulté motrice pourront faire appel à nous tout de même pour qu'on vienne les chercher à Borne.
Et lors de ces deux journées, sont organisées des tables rondes, des échanges sur les communs. Deux points. Bien à partager et à défendre. Vous allez pouvoir nous développer un peu cette proposition. Et il y aura quand même quelques invités aussi présents qui présenteront et proposeront justement ces tables rondes ou des centres de discussion. Pour vous, Michel, quel était ce désir d'organiser ces rencontres?
Alors, la section de la Ligue des droits de l'homme, évidemment, se préoccupe de tous les droits humains, hein, on va dire des droits humains. Et puis, dans les différentes catégories, que ce soit en matière de liberté, en matière de solidarité pour les étrangers, pour les injustices aussi, mais aussi en matière de droit social, on l'oublie parfois, et de droit environnemental, de droit de la nature. Et aujourd'hui, notre section se préoccupe particulièrement de ce qu'on appelle les communs. C'est un sujet qui nous paraît intéressant pour une section de la Ligue des droits de l'homme. C'est une spécificité, notre section est plutôt tournée vers la ruralité, implantée dans notre territoire du Diwa jusqu'au Crétois. Et on s'est soucié de cette question des communs. Alors ça mérite effectivement une explication. Qu'est-ce qu'on appelle commun? Voilà. Pour nous, nous nous préoccupons de ce qui est partagé, des biens, des territoires, des lieux, mais aussi de l'usage de ces biens. On peut penser au chemin, bien sûr, d'abord, peut-être avant tout, mais on peut penser à la forêt, on peut penser à la rivière, on peut aussi penser au ciel, à certains aspects. Ce sont tout ce qui appartient à la communauté. Et ça le mérite justement d'engager la réflexion, le dialogue, la discussion et de se préoccuper de ces lieux, de ces objets. Que ce soit par exemple la rivière Drôme qui peut faire l'objet de toutes sortes de réflexions, que ce soit nos chemins ruraux, vicinaux, de randonnée, pédestres et tout cela. Et donc, nécessairement, de le faire en association avec les structures autour du refuge à Tour de Borne s'imposaient.
On pourrait peut-être, par vous, Bénédicte, situer le cadre de ces rencontres à cette Tour de Borne.
Alors, tout d'abord, je crois que c'est important de noter cette préoccupation commune et qui C'est certainement pas un hasard si au refuge, comme à la LDH, mais comme dans de nombreux autres lieux, la question des communs préoccupe. On avait un peu pensé appeler nos rencontres « Penser un avenir désirable dans la pratique des communs ». Et finalement, on est resté sur quelque chose de plus simple, la nécessité de les protéger et les défendre. Jusqu'à présent, on le faisait annuellement. Et puis là, on a eu une année de pause pour nos rencontres. Mais on s'est toujours préoccupé justement de ces biens communs, puisqu'on avait déjà fait des rencontres sur le thème de la forêt. Et on trouvait cette année que ça devenait de plus en plus important sur trois champs différents qui sont d'une part le champ économique, le champ social et le champ écologique. Donc bien évidemment, sur ces trois champs, on fait des liens et des ponts avec de nombreuses organisations, de nombreux chercheurs aussi, puisque nous aurons des universitaires qui viendront nous faire part de leurs travaux de recherche. Et il nous semble aussi intéressant de mener ces réflexions dans un lieu qui existe depuis plus de 30 ans, qui a été créé pour défendre justement un commun qui était la forêt et une propriété anciennement agricole. Donc le lieu semble tout à fait pertinent pour mener ces réflexions.
Justement, ce désir d'échange et de table ronde, qu'est-ce qui vous a motivé de cette organisation, le contexte économique, politique, actuel aussi ?
Alors, certainement, oui, parce qu'on s'aperçoit aussi que de nombreux communs ont été privatisés ou appropriés, même parfois, sans forcément... Les exemples sont foisonnants sur les effets pervers de ces appropriations, que ce soit l'eau, la forêt, avec des aspects qui parfois menacent gravement le vivant. Donc, il nous semblait... important d'aborder ces thèmes, mais aussi d'aborder sur l'aspect positif, c'est-à-dire aussi faire part d'expériences de personnes qui se sont mobilisées et qui permettent aujourd'hui d'avoir des initiatives qui permettent de défendre la terre, la forêt, l'eau. Alors c'est vrai que notre territoire regorge bien heureusement de ces initiatives, mais on les mettra aussi en miroir avec d'autres effets moins positifs de l'appropriation des communs.
Michel, vous-même, je repousse la même question. Cette motivation, c'est le contexte actuel qui vous inspire, enfin qui vous a motivé pour cette organisation ?
Je pense que on est effectivement dans une période où il est bon de se déterminer par rapport au collectif. Il est bon de s'interroger sur cette notion de communauté, de collectif, de commun. Et je pense qu'il y a, c'est vrai, dans le territoire, évidemment à l'international, on y pense bien sûr, mais au niveau national, comme le disait Bénédicte à l'instant, des initiatives. Je pense par exemple à des chemins qui sont tout simplement interrompus, coupés, dont certains qui sont accaparés, hein, et qui interrompent des parcours, des itinéraires. Moi, j'en ai vu plusieurs. Il y a, par exemple, du côté de Marseille, dans les Calanques, des personnes qui peuvent, comme ça, empêcher des randonneurs. Et pourquoi depuis tant d'années ? La France dispose d'un réseau de randonnées exceptionnel. Et puis, comme ça, du jour au lendemain, si le propriétaire voisin du chemin décide de s'approprier une bande, souvent large de 1m50 ou 1m80, eh ben il empêche aux autres le droit de randonnée, le droit de circuler. Le droit de circuler, c'est un droit de la essentiel. Et donc, au niveau, nous, au titre de la Ligue des droits de l'homme, bon, on est tout à fait à même de se saisir de ce sujet.
Et cela aboutit parfois à des poursuites. Comment se, justement ces difficultés, il faut bien passer par peut-être la justice pour...
Ah ben, il y a nécessairement, lorsque arrive ce genre de situation, des procédures. Que ce soit en droit administratif ou, enfin, de toute façon, ce sont des procédures. Et effectivement, on peut porter plainte, on peut engager des actions. C'est le cas, il y a eu un article récent là-dessus, sur Marseille, par exemple. Je pense à Marseille, mais il y a d'autres cas où on interrompt comme ça le flux de circulation. C'est totalement, non seulement illégitime, mais absolument inacceptable de couper comme ça l'herbe sous les pieds, c'est le cas de le dire.
Vous voulez rajouter ?
Oui, on peut aussi prendre l'exemple de l'eau avec les projets de méga-bassines où on savait que certains gros agriculteurs, qu'on pourrait même qualifier d'industriels, allaient s'approprier des quantités énormes d'eau, mais aussi des sociétés comme Nestlé qui, avec l'eau qu'ils mettent en bouteille, vont priver des habitants d'une eau potable. Donc je pense que malheureusement, les exemples foisonnent sur ces appropriations qui sont
abusives.
Voilà, abusives complètement, et puis qui vont léser la population par rapport à une ressource qui devrait être commune. Alors, il y a l'air, on ne peut pas le privatiser, mais on voit bien aussi quand même que notre bon air est menacé. Donc, je crois que c'est vraiment important qu'on se mobilise et qu'on mette en valeur les initiatives qui permettent de défendre ses communs.
C'est un sujet qui a besoin, à mon avis, de définition. C'est un sujet qui a besoin de dialogue et de clarification. Donc c'est pour ça que c'est vraiment, moi je remercie et je suis très sensible à cette initiative qui va être au refuge. En plus, le refuge de la Tour de Bande se prête particulièrement puisque là, il y a eu justement une sorte d'appropriation collective d'un territoire pour l'ouvrir aux autres. Pour qu'on puisse y circuler, pour qu'on puisse en profiter, mais dans une ouverture, dans vraiment une liberté. Et je crois que c'est particulièrement adéquat comme lieu que l'on y vienne, avec à la fois pour s'intéresser, s'interroger, mieux comprendre ce dont c'est un débat de demain. Et donc, évidemment, on y fera aussi la fête, on va aussi s'y amuser, et puis ne serait-ce que de monter, enfin c'est aller aux sucettes et prendre ce petit sentier et gravir la montagne, ben, ça fait réfléchir peut-être certains, et de se dire ben, c'est quand même une chance dont on dispose, et en France en particulier, d'avoir tous ces sentiers, qu'ils soient grandes randonnées, moyennes, enfin ici, vous savez qu'il y a 6000 km de sentiers dans la Drôme, on est sensible à cette liberté de les parcourir et de les emprunter, qu'ils soient entretenus. Donc, ça fait aussi partie. Au départ, c'est vrai que dans la section même, les militants étaient un peu interrogatifs. Mais qu'est-ce qu'on dit là quand on parle de commun ? C'est quoi ce sujet ?
Justement, ça sera la première introduction de ces deux journées avec une définition et histoire des communs. Pour cela, il y aura Éric Le Cerf qui proposera une conférence sur les communs, un horizon d'émancipation ancré dans le réel. Il y a aussi M. Landel qui proposera l'histoire de la notion du commun à travers l'exemple du pastoralisme et Olivier Royer pour parler aussi de breveter ou privatiser les communs pour les protéger. Est-ce une bonne idée ? Voilà, donc ça c'est la première après-midi. Ça permettra d'éclaircir un peu le propos pour tous avec... une raison commune, donc, sur le sujet.
Et le pastoralisme est une très bonne base pour parler des communs. C'est le principe même de la circulation des troupeaux, du pâturage. C'est vraiment un très bon exemple pour expliquer ce qu'on appelle la notion, le concept de commun. C'est pas si compliqué que ça. Simplement, actuellement, ça n'a pas encore été le centre de discussion et on y arrive. Bah, tant mieux.
Est-ce que c'est une notion qui existait, fut un temps, et peut-être oubliée ?
C'est très ancien, en fait, la notion de commun, puisque on aura entre autres deux chercheuses de la faculté de Valcom, l'Université Savoie-Mont-Blanc, qui viendront aussi nous faire part de leurs recherches. Et entre autres, Julia Ambrosio a travaillé sur les sections de communes, qui est une notion très ancienne, qui est à sortir des biens communaux. Et c'était des biens qui pouvaient être soit de la terre, soit de la forêt, soit même un bâtiment, et qui étaient attribués en fait aux habitants qui étaient à proximité de ce bien et qui s'organisaient pour le partager, mais aussi pour le protéger, pour qu'il puisse être transmis. Donc c'est vraiment donc elle a travaillé avec aussi des historiennes. C'est vraiment une notion qui est très ancienne. Je crois que aussi on a Graeber qui en a parlé dans des ouvrages sur l'historique aussi de comment étaient utilisés et protégés ces communs dans l'histoire. Et Olivier Royer justement nous parlera des travaux d'une économiste, Elinor Ostrom, qui a eu le prix Nobel de la paix sur une étude qui expliquait en quoi le fait de privatiser les communs pesait, en fait, représentait une menace sur la pérennité de ces communs. Donc, c'était début du siècle, si je ne me trompe. Et je crois que ça fait un moment, quand même, qu'on réfléchit à cette protection des communs pour qu'ils soient pérennes, que tout le monde puisse en profiter. Et malheureusement, bon, comme on l'a déjà exprimé, ils ont été parfois abusivement appropriés, détournés, voire détruits. Quand on parle des forêts où on a fait des coupes rases ou de l'eau qui a été, des lacs et des rivières qui ont été asséchées, c'est des communs qui ont été détruits.
Il y aura dans l'après-midi donc des ateliers, des jeux. C'est à partir de, pour les enfants aussi, de 5 à 10 ans. Et puis, il y aura des ateliers animés par Solstice et Atelier Nichoir. Donc, une proposition de créer et de fabriquer des nichoirs. Et je crois qu'il y a aussi les fours solaires qui sont prévus le lendemain avec M. Paré, que j'ai reçu il y a quelque temps avec la fête des circuits courts à Charins. Hein. Et puis, copère de jeu qui sera présent.
Oui.
Avec Julien Loos.
Alors, Julien Loos, il est dans les deux organisations, Solstice et copère de jeu. Copère de jeu, c'est justement intéressant sur... alors, on fait toujours appel à eux, mais c'est particulièrement intéressant quand on... de mobiliser les enfants sur les jeux de coopères de jeux, parce que c'est justement des jeux coopératifs qui sont faits avec des matériaux, tout ce qu'il y a de plus respectueux de l'environnement.
Il y aura donc Nicolas Herringer qui propose aussi « Que peut-on encore faire ? Quelle stratégie militante dans un monde qui s'effondre ?» Caroline Dumas, c'est ça ?
Oui.
Pour Terre de Liens. Et Claude Véret, que j'ai reçu hier... et avec lequel j'ai enregistré une petite séquence que nous écoutons tout de suite.
Nous, on travaille sur les communs à Écologie au quotidien, mais dans d'autres organismes, le Laboratoire de la Transition et BioVallée, on travaille depuis des années sur les communs. Les communs, alors l'eau, l'air, la rivière, la forêt, l'usage d'Internet, enfin plein de choses sont des communs. Et à Borne, le 6 juillet, l'intervention portera sur la rivière Drôme. On travaille depuis 3 ans avec Écologie au quotidien, BioVallée et 2 autres associations qui s'appellent LIKEN, qui travaillent sur la représentation des autres qu'humains dans les processus démocratiques. Et on travaille avec Rivières Sauvages aussi, qui labellise les rivières quand elles sont de qualité et qu'elles sont... comme on dit, sauvage. Et donc, cette rivière sauvage en chemine vers une reconnaissance de droits politiques et de droits juridiques, la rivière Drôme, hein, j'entends bien, afin qu'à terme, comme ça s'est passé en Nouvelle-Zélande, comme ça avec les Maoris, comme ça s'est passé pour la forêt au Pérou, que ça s'est passé avec la forêt en Bolivie, à un moment, cette rivière soit reconnue comme un bien commun, comme lui donner une parole et qu'elle puisse rester en justice, voire qu'elle ait une représentation en politique. C'est un chemin qui est très long. Nous, on se donne 5-6 ans pour arriver à ça. On va essayer de mettre en chemin tous les acteurs de la rivière, les pêcheurs, le syndicat mixte de la rivière Drôme, les riverains, toutes les associations qui travaillent sur la rivière, afin qu'il y ait un vrai travail de conscientisation, de politique, mais aussi artistique et d'appropriation, je mets des guillemets à appropriation, de la rivière, parce que c'est elle qui nous nourrit, c'est elle qui... Moi, je suis... comme ça fait 50 ans que je suis ici, je dois être à 100% d'eau dans mon corps de la rivière Drôme, ou peut-être un peu de la Méros. Et donc, c'est elle qui nous fait vivre, en définitive. Il n'y aurait pas la Drôme, je ne suis pas sûr qu'on ait un territoire agricole, qu'on ait un territoire vivant, qu'on ait une ville de 10 vivantes. C'est vraiment un bien commun.
Donc, ça rejoint un peu le propos sur la notion du commun. Il y aura aussi, avec Terre de Liens et Caroline Dumas, connaître et valoriser les initiatives foncières agricoles citoyennes pour essaimer, entraider, mutualiser et faire du plaidoyer. Ça illustre bien ce refuge de Tour de Borne. Et ensuite, pour vous, ces sujets ont été préparés avec cette même idée que vous avez énoncée au départ de cette émission ?
Alors pour cette deuxième partie, on voulait réfléchir aussi sur les différents modes d'action entre ce que peut faire un élu, mais aussi ce que peuvent faire les militants de différentes associations et mettre en avant justement des expériences qui, pour Terre de Liens, sont tout à fait positives, hein, puisqu'elles permettent que de jeunes agriculteurs puissent s'installer. Donc c'est très concret. Et aussi la démarche que décrira Claude Véret pour la rivière Drôme. Donc on voulait vraiment réfléchir sur les différentes possibilités d'agir pour défendre les communs. Et on va peut-être avoir en plus une personne qui viendra nous défendre aussi des actions un peu radicales, parce qu'on peut aussi se demander s'il n'est pas finalement légitime d'aller détruire des méga-bassines. on avait envie un petit peu de se questionner sur les différentes actions mises en œuvre, qui ne sont d'ailleurs pas exclusives les unes des autres, bien évidemment.
Moi, je pense que c'est, là encore, on voit projets, un certain nombre d'initiatives qui vont déboucher. On a entendu Claude Véret, Bénédicte vient de parler d'action. Je crois que d'accueillir ce cadre à Borne, où il y a 30 ans déjà, on s'est approprié, mais une appropriation, je voyais les guillemets, j'entendais les guillemets de l'appropriation, c'est une appropriation collective. C'est une appropriation collective. C'est très ancien comme principe. On peut dire même que finalement, de se rattacher à la Révolution française ne paraît pas complètement désuet ou inapproprié. Hein. De quoi s'agissait-il ? Ben, tout simplement de faire en sorte que la terre, le territoire, n'appartienne pas à un seul, mais que ce soit le collectif, la collectivité qui puisse en profiter. Et je voudrais juste donner un exemple visuel, simple. Quand vous vous baladez en Drôme, vous ne voyez à peu près pas de clôture dans les champs. Il n'y a pas de clôture. C'est très différent quand vous descendez dans le sud de la France, où vous trouvez des propriétés qui sont toutes clôturées. Ou quand vous remontez en Bourgogne, par exemple, dans les vignes, vous avez... Alors évidemment, la valeur vient s'immiscer dans cette appréciation du territoire. Vous êtes du côté de Clos-Vougeot, je ne sais pas, dans des célèbres villages de cuvées riches. Bon, bah, évidemment, là, vous avez des petits murets, des murettes qui délimitent le territoire. Mais nous, en Drôme, on n'a pas ces clôtures. Ça ne fait pas partie de la tradition, de l'histoire. Donc c'est intéressant de réfléchir à tout cela. Ne serait-ce que revenir à cette vision-là du territoire. Clôture, pas clôture, pourquoi ? Pourquoi y a-t-il clôture ? Pourquoi n'y aurait-il pas clôture ? À Borne, pas de clôture. On peut traverser et monter au Jocou, quasiment. Ou alors, s'il y a une petite clôture, ben, souvent, c'est un crochet. On la remet en passant, et puis voilà, et on passe.
À cause des pâturages, des brebis, certainement.
Exactement.
Vous parliez des cairns, hein, qui délimitent aussi certains territoires, hein, que ce soit dans le sud-ouest, au vignoble. C'est aussi dû à cette remontée de roches sans cesse ramenées en surface, et donc qui sont déplacées sur ces murets pour finir par être une délimitation de territoire. À suivre, donc, il y aura à 18h un apéro musical avec Eddie S, l'unique femme orchestre. Donc, ça sera en même temps une performance musicale, électroacoustique et peut-être aussi humoristique.
Oui, c'est quelqu'un qui est aussi militante et aussi militante pour la défense des communs, puisqu'elle fait aussi partie de l'association Le Son de la Terre. Mais il se trouve que par ailleurs, elle est clown et musicienne. Donc, on a souhaité, bien évidemment, avoir des temps festifs. Mais nous avons aussi choisi de soutenir des artistes qui ont eux-mêmes un engagement. Donc des artistes ou des associations comme La Parallèle qui nous préparera le repas. Et comme AIDS, qui est quelqu'un qui est aussi engagé pour la défense de ses communs dans sa région.
Il y aura un repas aussi à 20h avec une réservation.
Oui, c'est mieux de réserver, sinon vous risquez de ne pas avoir de repas. Donc il faut le rappeler, c'est bien de téléphoner pour réserver son repas, qui sera un couscous soit viande, soit végétarien. Donc le prix est tout à fait raisonnable, puisque c'est 10 € pour les adultes, 8 € pour les enfants. Donc on souhaite aussi être accessible au plus grand nombre, et d'ailleurs les gens qui ont des difficultés financières peuvent se signaler et on sera aussi content pour ceux qui peuvent faire un peu plus parce qu'en général la tour ne retombe pas sur ses pattes après ce genre de journée.
Voilà. Et en journée justement il y aura aussi la meute qui sera présente avec quelques intermèdes, on connaît bien cette formation hein, de dit et puis en soirée après ce bon repas, il y aura un bal avec Noyau d'Olive. C'est un medley de chansons françaises à danser. Donc, repas léger, j'imagine.
Oui, de toute façon, à la tour, il fait frais, hein, donc il n'y aura pas de souci.
Ah. Combien est la température, là ?
On est à 1350 mètres. Alors après, l'intérêt, c'est qu'il fait frais la nuit,
oui.
Donc, ou en soirée, et on peut se remettre quand il a fait chaud la journée, donc c'est quand même agréable. On fera en sorte aussi de faire de l'ombre pour si jamais il devait faire un peu trop chaud, mais il fait quand même beaucoup moins chaud qu'Adi.
Et cette journée, enfin ce week-end, sera avec une participation au frais, hein,
voilà.
Au chapeau, voilà. Le lendemain, dimanche 6, je parlais donc en introduction de la construction d'un four solaire, avec Monsieur Paré, et donc il y a aussi une inscription à opérer auprès de lui pour préparer le matériel.
Voilà.
C'est le 06 99 08 21 10. Plus tard, à 10h, et ça c'est à partir de 9h, et à 10h, donc expérience et recherche de terrain de protection des communs. Alors ça c'est un propos qui va être peut-être décliné sur divers aspects. On parle d'agricultrice avec... c'est Pauline ?
Non, c'est Patricia Tardieu qui est une copropriétaire de la première heure du refuge de la tour, enfin de la propriété, et qui par ailleurs, donc avec Christine Sproul, qui est IDS en fait, et d'autres personnes de ce lieu ont mis en place une expérience qui s'appelle une association Le Son de la Terre. Alors, ce n'est pas une association, d'ailleurs. Je ne sais plus, c'est un groupement agricole, mais je ne sais pas la forme, pour permettre justement la transmission de terres agricoles. Donc, c'est une expérience qui est assez intéressante, assez innovante et une expérience réussie. Donc, on voulait aussi faire part d'expériences positives. Ensuite, nous aurons donc, je crois que c'est Sophie Ludwig et Julia Ambrosio qui, elles, ont fait des recherches, mais des recherches de terrain. Donc, elles viendront nous parler des enjeux de gouvernance dans les communs liés à l'eau et à la forêt. Donc, elles vont sur des lieux où des expériences aussi fonctionnent. Et pour certaines, sont très anciennes. Donc, elles viendront nous faire part aussi de leur recherche. Ensuite, nous aurons Éric Marchand qui viendra nous présenter ce qui peut... Alors, il y a une grande question aussi au niveau des semences, parce que les semences sont bien évidemment un bien commun et qui, malheureusement, elles aussi ont été l'objet de spéculations, de brevets, d'appropriations.
Frénésie commerciale.
Voilà, de frénésie commerciale. Donc, tout le monde a entendu.
Ça peut être même excessif. Hein.
Voilà, tout le monde a entendu parler de Monsanto qui avait, par exemple, breveté le quinoa qui se faisait pousser depuis des centaines d'années en Amérique du Sud. Donc, ils viendront nous parler des différentes expériences qui existent pour défendre les semences en tant que commun.
Il y a cette manifestation.
Et dimanche prochain, 29 juin.
Oui.
À la place de la Comtesse. Donc,
oui.
Une mobilisation à 10h contre cette loi du plomb. Ça aussi, c'est un sujet de réflexion qui sera débattu.
Oui, ce qui est intéressant, c'est de voir là encore que les citoyens se mobilisent. Alors évidemment, on peut se dire, mais qu'est-ce qu'ils ont ? Il y a une représentation populaire, une assemblée, tout ça. Mais lorsque le citoyen, il sent justement qu'on le dépossède quelque part d'un débat, d'un sujet, et puis qu'on prend des initiatives, mais qui lui semblent aller complètement à contrario de la bonne marche du territoire, bah, le citoyen, il se réveille et on va les voir, place de la Comtesse, dimanche matin. Par exemple.
Il y a, pour finir, le refuge de la Tour de Borne, donc une histoire d'une aventure collective. Ça sera vous, Bénédicte, qui serez en charge ?
Oui, certainement. Je pense avec d'autres personnes qui ont suivi le projet depuis le début et sans parenthèse, parce que c'est mon cas d'avoir de temps en temps dû m'éloigner un petit peu du lieu. Donc je pense que ça sera une intervention à plusieurs voix. Mais c'est vrai que c'est aussi un exemple de défense des communs. Et c'est une aventure collective. Et là encore, on avait envie de faire part d'aventures collectives qui avaient bien marché.
À cet exemple, vous avez aussi d'autres cas similaires sur cette appropriation commune d'un lieu, d'un territoire. Et peut-être aussi, est-ce que c'est l'intérêt d'un public de venir écouter sur ce sujet du refuge ?
Moi, je voudrais, par exemple, c'est pas un territoire, mais c'est une action qui est magnifique. Il y a peu de temps, dans une cabane, une maison construite en dur, à Jossaume, il y a une association qui s'appelle Tous à Poil. Et voilà, typiquement, des citoyens qui se préoccupent d'un bien commun. C'est quoi ce bien commun ? Ben, c'est tout simplement le refuge, la cabane, le lieu où on peut venir se réfugier, où on peut venir dormir, se coucher, bivouaquer. Voilà. Et la cabane de Jossaume en est un exemple. Et ces cabanes, elles sont dans toute la France l'objet de soins, avec toujours l'idée de faire beau, de faire pratique, de faire local et de faire confiance à tous les visiteurs qui nécessairement prendront soin de ce lieu parce qu'il est beau, pratique et utile et local. Voilà. Donc ça, bon, je pense à eux, mais c'est l'association Tous à Poil. On peut aller voir leur site sur Internet. Mais il y a des initiatives de ce type. En tout cas, c'est très caractéristique du Diois, je crois, aussi.
Voilà, en gros, la programmation. Il y a quelques infos pratiques, donc il y aura une possibilité de se désaltérer ou de se substanter avec des crêpes ou des boissons fraîches. Il y aura des ateliers et des jeux, comme je l'ai déjà dit. Et il y aura aussi cette possibilité, peut-être, de camper sur place.
Voilà.
Pour cela, il faudra peut-être aussi se signaler à part un numéro de téléphone.
Oui, c'est important de réserver parce que nous allons monter les tentes. Donc, les personnes n'auront pas besoin de les porter sur leur dos. Et puis, ça nous permet de les installer aux endroits pertinents, judicieux et plats parce qu'il n'y en a pas tant que ça. Donc, on les monte à l'avance. Donc, c'est important de réserver sa tente en précisant pour combien de places. Préciser aussi, donc je l'ai dit, que les personnes qui ont des difficultés motrices peuvent nous solliciter, que les chiens sont interdits comme sur tous les alpages du Vercors, et bien évidemment, les feux aussi sont strictement interdits, surtout que notre forêt est quand même bien fragile en ces temps très secs. Et que amener plutôt des espèces, parce que à la tour, bien sûr, nous n'avons pas la possibilité de vous prendre votre carte bleue.
Peut-être préciser aussi que le refuge lui-même n'est pas ouvert, enfin, ne peut pas accueillir de couchage. Quoi.
Oui, le refuge ne sera pas disponible, là encore, sauf les personnes qui ont des besoins spécifiques, je pense à un respirateur la nuit, donc besoin d'électricité. Ils nous appellent et puis on essaye de répondre à tous les besoins.
Les solutions, les situations particulières.
Voilà.
Eh bien, Bénédicte de Rugy et Michel Léon, je vous remercie tous deux d'être venus nous annoncer donc ces rencontres du refuge de la Tour de Born qui aura lieu ce week-end du 5 et 6 juillet 2025. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Juste, j'ai oublié, est-ce qu'il y a peut-être un site, une page à visiter pour se renseigner un peu?
Oui, c'est le site latourdeborn.org où vous aurez tous les renseignements. Vous pouvez aussi nous écrire, nous envoyer un mail à refuge-latour, tout en minuscule, tout attaché, @gmail.com pour les questions spécifiques ou bien appeler le numéro de téléphone.
Je vous souhaite une bonne soirée.
Merci beaucoup.
Merci.
Merci à vous de vous intéresser à cette belle initiative.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir, merci.
C'est toi qui as raison, tu mobilises des amis contre moi. Tu es sûr que tu as raison, tu es qui toi? Le coupable c'est moi. Oui, il y a eu un accident, la clim qui s'est cassée. Mais qui a demandé à ta soeur de partir? Pourquoi elle est partie? J'ai parlé deux fois avec elle, nous nous sommes énervés, c'est vrai. Mais ce n'est pas moi qui lui ai demandé de partir, il n'y avait aucune raison. Aucune raison. Aucune raison. Et puis des amis avec des voisines, on s'est vus deux fois. La balance ne fait pas le poids. C'est l'éducation que tu as reçue qui elle l'a fait partir. Et ça fait trois ans que tu m'en donnes la faute. Tu me tortures, tu m'insultes, tu me déranges dans toutes les manières. C'est l'éducation reçue qui fait ça, qui range officiel le vengeur, et convaincu d'avoir reçu un tort, et convaincu qu'il faut le faire payer. Tu es là pour me faire payer. Tu es là pour me faire payer. Je lui avais dit pourquoi mes voisins on se parle pas. Elle m'a répondu, je ne fais attention que à mes compatriotes. Moi j'ai répondu, vous êtes fasciste. Que tu es blanche ou tu es noire, tu es juste fasciste. Je m'excuse, c'était fort. J'aurais dû être plus douce, clémente. Pourtant j'avais raison et je me suis juste énervée. Loin de moi de la faire partir. C'était son choix, pas le mien, jamais j'aurais voulu, je n'ai... C'était son choix, pas le mien, jamais j'aurais voulu, je n'ai pas fait attention, j'aurais dû le voir, qu'elle était blessée, mais moi j'étais seule, elle avait le monde avec soi, elle avec toi, qui a pris sa vie en vengeance, et qui me torture, qui est innocent, toi, qui est du côté du droit. Et puis dans le monde, deux guerres ont explosé. C'est une casualité, si responsable. Elle était ton impiété, mon impiété, c'est facile à dire. Lui, il m'a fait du tort. Alors je m'en venge, alors j'attaque. J'ai commencé, il a commencé. Il a voulu, il a causé. Mais tu es sûr que c'est ce que Dieu veut? Tu es vraiment sûr que Dieu est avec toi? Tu le sais, qui est vraiment responsable dans une vision impartiale, dans une prétendue vision objective? Qui pèse les motivations et les juges? Qui voit tout? Tu es vraiment sûr que Dieu est avec toi? C'est sûr. C'est ce qu'on va voir. Dieu avec qui? Dieu avec qui? Tu peux manipuler l'opinion. Tu peux crier à l'honneur blessé de ta famille et la mienne et moi. Elle ne compte pas, je ne compte pas. Qu'il faut que... On verra où la foule tombe.